langage parlé, mais dans le langage silencieux de l'image et de la couleur, ou de l'absence de couleur. Mais néanmoins, je vais découper ce temps de parole en plusieurs éléments, c'est-à-dire on va parler d'art, donc je voulais un petit peu redéfinir ce qu'est l'art. Ne m'en voulez pas si ce mot vous paraît pompeux, il ne l'est pas, il laisse sur lui donne cette connotation-là. Pour moi, je n'ai pas trouvé d'autre mot que celui-là. Ensuite, je vais vous parler du bleu, parce que le bleu s'est imposé à moi plus que j'en ai fait le choix, et je vous l'expliquerai. Et surtout, tout au long de cette réflexion, je me suis rendu compte depuis plusieurs années que j'y ai instauré des rituels pour justement que les choses créatives adviennent. C'est loin une situation qui va de soi. Je ne pense pas qu'il y ait des artistes fondamentalement inspirés et d'autres pas. En tous les cas, il y a toute une trajectoire de travail et de rituel qui permettent que les choses se fassent et se disent. Je l'ai compris assez tôt et assez vite, de par peut-être les rencontres qu'on a pu faire dans mes voyages et puis de par diverses initiations. Et une troisième chose que je voulais dire, je ferai appel à plusieurs philosophes parce que pour moi, l'art de l'image ne se distingue pas du questionnement philosophique. J'avoue que c'est un pan de mon travail qui a été aussi important que celui de traiter la technique de l'image. Pour moi, la technique n'est qu'un faible pourcentage des choses et c'est en tous les cas pas du tout un but, mais n'est qu'un moyen. Et je le redis parce qu'on est dans un regard pervers sur l'art, c'est qu'on met en avant la technicité, la prouesse, et moi je la mets au plus loin de nous. Elle est nécessaire, mais elle n'est jamais un but. Voilà. Alors, je vais commencer par Comte Sponville, que tout le monde connaît ou a entendu parler en tous les cas. Il dit une chose qui peut vous paraître brutale, et j'ai voulu commencer par ça. L'art est un fait de l'homme. Alors, je vais m'en expliquer, bien sûr, et je vais continuer avec un autre qui s'appelle Léonard de Vinci, dont vous avez toujours entendu parler aussi. Et il aimait dire, lorsqu'il se présentait, « Je suis le fils de l'expérience ». Ces deux aspects-là, des choses, je me les suis appropriées très intuitivement au départ, et voire même très inconsciemment. C'est peut-être le cheminement et les années qui m'ont amené à comprendre tout ce processus qu'on a naturellement en nous. Donc c'est à travers ma petite expérience de plasticienne de recherche de longue date, ça fait quand même, je vais dire, 35 ans bonnement, que j'oserais même dire que depuis que j'en ai les souvenirs, que s'est dessiné ce chemin qui, plus que je l'ai choisi, m'a choisi. Il y a des choses dans la vie qui s'imposent à soi sans qu'on se dise un jour, tiens, j'aimerais aller sur cette voie-là. La vie n'a cessé que de me ramener sur ce chemin-là pour qu'un jour je comprenne que c'est le chemin que j'avais à prendre. Voilà. Alors, pour en venir sur l'histoire que l'art est le fait de l'homme, je dirais que le chant de l'oiseau et pas davantage la lune sculptée par le vent ne sont des œuvres d'art. La beauté de ces choses-là, pour lesquelles on s'émerveille, ne suffit pas de dire que c'est une œuvre d'art. Je crois que là-dessus, vous allez peut-être être d'accord avec moi. La beauté, donc, n'est pas suffisante. Et à l'inverse, quel peintre affirmerait que le tableau qu'il est en train de peindre est plus beau que la nature? Ça paraîtrait grotesque. Donc, la beauté ne suffit pas à définir une œuvre d'art. L'artiste, s'il est artiste, ce n'est pas pour son travail d'artisan, parce qu'il n'y a pas que l'artiste et l'artisan qui ont des outils, on a même des animaux qui se créent des outils, ce n'est pas le propre de l'homme uniquement, et ça ne définit pas l'art non plus. Ni sa qualité esthétique. L'œuvre n'est pas un beau produit d'une activité artistique. Vous comprenez alors qu'il faut bien autre chose. Hein. Et qu'est-ce qu'est cette autre chose? La foule fut de toute humanité qui s'interroge sur le monde. L'art se définit, alors les historiens se bagarrent un peu là-dessus, mais d'une manière générale, on commence à parler d'œuvres d'art à la préhistoire, quand il y a eu un fait, c'est une des idées qu'on peut avoir de cette chose-là, quand l'homme a pris conscience qu'on enterrait les morts. Donc c'est conscience de l'au-delà, de la mort, qu'on ne laissait pas l'humain comme ça sur le bord du chemin, qu'on a commencé à rentrer dans une forme d'acte magique de représentation par l'image. Et donc, on date ça depuis très longtemps. Il suffit d'aller voir en France les sites préhistoriques pour se rendre compte que les œuvres, que ce soit Lascaux ou autre, c'est d'une grande qualité, de très grande qualité de représentation, même si la représentation ne définit pas l'art non plus. Les peintures russes pestent en témoignent et personne n'ose en douter. L'artiste s'interroge sur le monde, comme le philosophe d'ailleurs. C'est plus un questionnement qu'une réponse. L'artiste n'apporte vraiment, véritablement pas de réponse. Il apporte davantage un miroir dans lequel chaque personne qui regarde va se refléter et va pouvoir s'introspecter, je dirais. Voilà. C'est pas une science, c'est pas une science exacte. L'artiste n'a rien à dire sur le plan de la pensée pure. C'est une proposition, un chemin qui est d'abord le sien. Voilà. L'art est reconnu comme tel depuis la préhistoire, comme je vous l'ai dit. Les peintures représentent bien sûr. Et c'est en philosophe, enfin l'artiste s'interroge sur le monde, celui qui l'entoure et celui qui l'habite. Et ça rejoint ce que disait Frédéric tout à l'heure, avec l'idée de la raison et du...
L'imagination.
Voilà, l'imagination, du subjectif, de l'invisible. C'est à la fois fait du cerveau droit et du cerveau gauche. Il y a à la fois une pensée rationnelle, il y a à la fois une trajectoire entamée d'une manière, je dirais, raisonnable et philosophique, et il y a aussi ce travail de l'invisible qui va se jouer devant l'artiste, qui va se faire à travers lui. C'est la réunion des deux. C'est en philosophe qu'il évolue lorsqu'il questionne, il interroge, il expérimente pour exprimer ce qui bien souvent le dépasse. Et je vous expliquais ce phénomène-là, je dirais même aujourd'hui, après le recul de l'expérience, que c'est quand on est dépassé soi-même par ce qui se passe sur la toile ou sur le support, que commence seulement l'œuvre. Du temps qu'on est dans le contrôle et dans le connu, on est un artisan. Je n'ai aucun mépris pour l'artisan, j'ai beaucoup de respect pour l'artisan, mais la différence entre l'artisan et l'artiste, c'est que l'artisan emprunte avec une grande technicité, une grande dextérité, une grande connaissance, mais un chemin qu'il sait tracé, qu'il connaît, il connaît déjà le but. L'artiste ne connaît jamais le but. C'est la différence, mais on est des artisans de l'invisible. Donc il n'y a pas d'hierarchie, il n'y a pas... C'est pas la même trajectoire néanmoins. Voilà. Donc c'est en philosophe qu'il évolue, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai besoin des philosophes. J'ai besoin de les lire, j'ai besoin de les rencontrer, j'ai besoin d'échanger. Et je dirais que ma vie d'artiste m'a donné cette première richesse, c'est de pouvoir les rencontrer. Voilà. Alors, l'artiste est mobilisé non pas par le fait de faire une œuvre et de faire beau et de faire bien, mais il est mobilisé par une quête de sens, de vérité peut-être. C'est cette exigence-là qui le pousse à travailler tous les jours d'une manière quasi... névrotique, je dirais, quasi répétitive et quasi ce chemin-là. Le monde, en général, semble avoir besoin d'art pour extérioriser ce qu'il est. Et je vous expliquerai un peu après comment le spectateur est co-créateur d'une œuvre. Moi, j'ai un très grand respect pour le spectateur, dans la mesure où je me dis qu'il poursuit les choses avec moi et l'art fait son chemin. Je n'ai rien de fini, l'œuvre ne m'appartient plus, elle appartient à celui qui la regarde. Et il est co-créateur dans ce sens où lui, il met l'émotion, il met la singularité qui est la sienne, et dans une mosaïque de différences qui fait la beauté du monde. Voilà. Pour y retrouver quoi ? Un reflet de lui-même. Quand un spectateur regarde une œuvre, c'est pas l'artiste qui regarde, c'est lui-même. Et l'œuvre, elle ne parle pas de rien d'autre que de lui-même. Et d'ailleurs, dans des expositions, j'ai eu des expériences aussi banales que celle-là, je vais vous dire, c'est que je vais voir une personne qui va me dire « Mon Dieu, que ça me paraît agressif, que c'est bruyant et autres. » Deux minutes après, une autre personne va me dire « Moi, ça me met en méditation, ça m'apaise. » Je me dis « L'œuvre, elle n'a pas bougé en trois minutes. » C'est bien de la personne que ça parle. Donc, quand on est dans les mots qu'on pose sur une œuvre, c'est soi-même qu'on apprend à regarder et à comprendre. Hein. Ça, c'est la magie de l'art, je dirais. Si ça s'arrêtait à l'artiste, ça n'aurait pas grand sens. Ça n'aurait pas une valeur exceptionnelle. L'art a cette qualité de nous renvoyer tous à nous-mêmes. Et c'est de ça pour lequel j'ai un grand respect, aussi quand je travaille à l'atelier, et une grande responsabilité aussi. Voilà. Tous les arts sont comme des miroirs, disait Alain, hein, qui a écrit un traité sur l'art, etc., qui était ministre de la Culture et philosophe. Donc tous les arts sont des miroirs, et oui, je pense que quand on va au concert, quand on va dans une exposition, on va chercher soi-même. Ne nous trompons pas là-dessus. Face à l'art, l'homme reconnaît quelque chose de lui-même qu'il ignorait, ne serait-ce que par l'expression que l'on dit quand on ne sait pas trop y mettre des mots, et c'est normal dans l'émotion, c'est « j'aime » ou « j'aime pas ». C'est pas l'œuvre qui engage le « j'aime » ou « j'aime pas ». D'ailleurs, une œuvre va plaire à l'un, pas à l'autre. C'est encore de soi qu'on parle. Je vous le dis, ça me paraît important de le dire, parce que vous avez un rôle majeur pour vous-même quand vous allez au musée, quand vous allez dans un atelier d'artiste, c'est vous que vous allez rencontrer. Ça, c'est extraordinaire quand on fait un métier comme celui-là. Voilà. Cependant, l'acte de création, et c'est là qu'on en vient, ne va pas de soi. Créer, c'est pas imiter, c'est pas copier. Il ne s'agit pas d'imiter le beau, mais de le célébrer, dit Comte Sponville. Et moi, j'ajoute, je dirais, de le dévoiler. Alors, on ne parle pas du beau en tant que faire joli. C'est du beau, c'est, pour moi, le beau, ce qui est beau, correspond à ce qui nous dépasse, à ce qui est au-delà de nous, de ce qu'on peut imaginer. C'est ce qui nous met dans un autre état, ce qui nous fait passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, je dirais. C'est ça le beau. J'ajouterai la phrase du peintre suisse Paul Klee, que vous connaissez très certainement, « L'art ne peint pas le visible, il rend visible. » Et c'est là que tout change. Petite phrase de rien, banale, on peut passer vite. Rendre le visible, peindre le visible, l'un est une voie vaine, l'autre est une voie d'évolution, et je dirais initiatique. Et quand on sait ça, on se rend compte qu'on ne rentre pas dans une voie aussi initiatique sans y mettre en place des rituels. J'ai compris ça assez tôt, et d'ailleurs, quand j'ai compris cela et que je me suis soumise à la cesse d'un rituel, je me suis aussi pacifiée avec moi-même. Parce que, une fois de plus, créer ne va pas de soi. Il ne faut pas croire qu'il y a les gens doués, les gens pas doués. Il y a des gens qui ont un talent fou, je le reconnais, moi je ne suis pas de cette catégorie-là. Je suis de cette catégorie des gens qui, pour comprendre le monde et se comprendre soi-même et exister dans ce monde, j'ai besoin de ce média, de ce véhicule. C'est pas la même. Je me sens plus proche du chercheur philosophe que du génie Salvador Dali, par exemple. Ça n'empêchait pas qu'il avait une pensée puissante que personne n'a compris. Qu'on comprendrait mieux aujourd'hui, parce que certainement qu'il était déjà dans une vision quantique du monde, bien avant tout le monde. C'est pas que les artistes sont avant les autres, c'est qu'on est tous en retard sur des envies traînées des vieux principes. L'artiste, il est fondamentalement de son temps. Il n'est ni en avance, ni en retard. Ça ne peut se faire que dans un présent permanent, perpétuel, un présent plein, qu'une œuvre peut exister. C'est la grosse distinction. On pourrait faire 10 conférences sur le sujet de l'art. Mais bon, je suis obligée de me restreindre. Et moi, c'est dans cette brèche, cette faille, j'appelle ça des brèches, des failles. Il y a un mot que j'aime bien, c'est l'écart dont parle le philosophe François Julien. François Julien est un philosophe actuel qui a cette qualité d'être à la fois de culture grecque, philosophie grecque, mais il a eu besoin de faire un écart par la Chine, par le taoïsme, pour mieux comprendre la culture qui est la nôtre. Et Jean, si j'ai rencontré François Julien, c'est sur ce territoire-là, toute humilité gardée. Moi, c'est ce que la vie m'a donné à vivre. C'est-à-dire qu'il y a 23 ans, je me suis trouvée sur la trajectoire de la Chine, sur un projet que j'aurais même pas pu désirer tellement je n'en avais ni la capacité, ni la compétence, ni rien du tout. Mais là aussi, on peut être tranquille d'une chose, c'est que la vie se charge de nous. Je n'avais qu'à dire oui, je me suis trouvée à Shanghai sur une exposition, on était 20 Français, et j'ai compris à quel point la Chine m'a mise au monde. Enfin, la Chine, je dirais la pensée chinoise ancestrale, et notamment le taoïsme. Il y avait un conférencier hier qui en a parlé, Raphaël. Le taoïsme a quelque chose de conjugable avec notre pensée occidentale. Peut-être l'un est précurseur sur l'autre, dans tous les cas, Tao, il est de l'époque de Platon, il y a eu cette espèce de miracle philosophique à peu près 500-600 ans avant Jésus-Christ, et il était planétaire. Ça, c'est moi, ça me fascine de me rendre compte que quand jaillit une nécessité à un endroit du monde, il jaillit la même dans un autre endroit. Et l'histoire le prouve, il suffit de, voilà, hein, d'aller voir. Donc vraiment, le taoïsme nous épargne une chose, une épine énorme dans notre monde occidental qui est le manichéisme. Le taoïsme a cette capacité majeure déjà de replacer l'être humain à sa juste place dans l'univers. Et le taoïsme n'oppose pas, il ne crée que des différences, il en fait une unité. Nous, on meurt de la division et de la dichotomie. On oppose tout, le bien, le mal, depuis longtemps. C'est notre poison, il me semble. C'est peut-être audacieux de l'affirmer comme ça, ça aussi on pourrait s'en expliquer. En tous les cas, moi, la complémentarité me plaît beaucoup mieux, mais me permet d'avancer davantage que d'énumérer les différences, qui à mon avis sont vaines, ne créent que de la tension, voire même du conflit. Alors, je reviens sur François Chen. Pas François Chen, François Julien, je parlerai de François Chen aussi, lui parle de l'écart, donc nous on pourrait parler du pas de côté. Et on sait tous que dans une initiation, on comprend très vite que le pas de côté est essentiel. Moi je dirais que si on n'a pas la capacité, et cette audace, c'est de se perdre, de s'égarer sur les chemins de traverse, eh bien, on est dans une servitude volontaire dont parle magnifiquement, d'ailleurs, la Boétie. Et on a eu, je pense que c'est très d'actualité, on peut prendre le parti d'être un serviteur volontaire de ce qui, des injonctions de ce monde. Et Dieu sait, là, c'est, on commence à mourir un peu. Voilà. Alors, je disais le pas de côté, oui, mais là aussi, ça ne va pas de soi. Se le dire et le comprendre, ça ne met pas dans la création, forcément. Que la puissance créatrice, et là je reprends des mots un peu audacieux, j'ai envie de dire, c'est une expression qui cependant peut paraître insupportable s'il ne s'agitait pas là de la puissance qui nous habite tous et qui définit notre capacité d'action singulière. Là aussi, j'ai envie de dire qu'on est tous équipés. Tous. Seulement, il y en a pour qui c'est une nécessité immédiate, c'est sa conscience du moment, et d'autres moins. On n'est pas tous appelés à être artistes, on peut être exprimer son génie, je emploie des mots forts exprès, là où on est, de toute façon. Les artistes ne sont pas des gens à part. Ce sont les artistes qui créent cette mythologie. Et moi, je la combats vraiment. Voilà, c'est un mode de vie comme un autre. Voilà. Donc, que la puissance créatrice soit un don naturel, il y a un peu de ça, mais soit aussi acquise, il y a beaucoup de ça. En fait, c'est fait des deux. C'est à la fois d'un inné, une prédisposition à aller savoir pourquoi, peu importe, et puis d'un acquis. C'est tout ce travail énorme, et là j'ai envie de dire énorme, mais comme tous les gens qui sont passés avant moi, l'ont montré à quel point rien ne va de soi et que pour arriver à une clarté de pensée et la retransmettre, c'est des jours, des heures, des nuits de travail, de lecture, de confrontation, de rencontre, d'écoute, enfin, etc., etc. Donc tout ça ne va pas de soi encore une fois. Donc les deux, l'inné et l'acquis, vont tout à fait, c'est un couple idéal. Ça implique un processus qui, encore une fois de plus, ne va pas de soi. L'art se fait en se faisant, dit Comte Sponville, vous allez dire, franchement, être philosophe pour pondre une telle évidence. Ben oui, c'est une évidence, mais ça n'en est pas une. Et j'ai un ami poète qui me dit, les évidences sont sans messier, les êtres y dansent. Et il est vrai que les évidences nous retiennent. Alors là, c'est un peu d'une manière poétique, et c'est peut-être en poète qu'il faut se balader dans nos vies, pour justement se rendre compte que les évidences ne sont pas du côté de la rationalité, mais de ce qui peut nous interroger fortement. L'art est irréductible à quelques règles que ce soit. Et je dirais que la chance du XXIe siècle, c'est d'avoir cassé les codes picturaux et d'avoir ouvert à des possibles inimaginables. Le danger, c'est que c'est un fourre-tout, tout rentre là-dedans, on ne sait plus trop où on en est. Mais la richesse, c'est qu'on est désinhibé. Désinhibé dans la manière de créer, d'écrire, de dire, de colorer les matériaux, les surfaces. Et ça, c'est une chance du XXe siècle, je dirais. Ça a commencé à la fin du XIXe siècle. Déjà, les impressionnistes commençaient à casser les codes, mais je dirais que Turner, bien avant, était peut-être le premier impressionniste. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on se fichait de la représentation, c'était plus du tout l'essentiel, mais qu'on laissait dire toute la partie sensible de ce que l'on avait à dire. C'était pas la représentation qui signait une œuvre. Turner, à la fin de sa vie, on est dans l'abstraction et dans l'impressionnisme de couleurs. Je pense notamment à cette peinture avec le train, là. C'est une révolution à l'époque de Turner. Les impressionnistes, il faut se dire qu'à l'époque, les gens ne voyaient pas. Par exemple, prenons Monet avec les cathédrales de Rouen, il en a fait un certain nombre, une vingtaine, je crois. Les gens ne lisaient pas ça, ne voyaient pas, ils disaient « qu'est-ce que c'est ?» On s'est peu à peu modelé à la fois le cerveau et l'œil et le regard et l'écoute pour enfin se rendre compte qu'une œuvre, il faut lâcher, il faut la laisser venir à soi et le sens vient à soi. Ce n'est pas nous qui attirons le sens, c'est l'œuvre qui nous amène au sens. Surtout dans tout le sens du terme, le sens rationnel, le sens émotionnel, le sens philosophique, le sens sensible. Et quand on est dans cette attitude de contemplation, eh bien on est en relation avec l'œuvre d'art et on agit en artiste, qu'on soit le fabricant, qu'on soit l'observateur, c'est la même posture. Et qui procure un réel bien-être, et même au-delà. Alors, le talent, moi je parle plus facilement de talent, ou je dirais l'expérience, j'aime bien le mot expérience, ce qu'on fait, parce que c'est pas connoté, et c'est par l'expérience que le talent vient, de toute façon. L'un fait l'autre, l'autre fait l'un. En tous les cas, le talent, s'il ne s'apprend pas, il s'apprend quand même. Alors ça encore, un paradoxe qui peut nous dérouter. Il y a des choses qui s'apprennent, l'art c'est un langage, c'est une écriture, d'ailleurs Picasso disait, l'art c'est une langue étrangère qui s'apprend. Et c'est un peu vrai. Et elle a ses codes, ses modes, ses règles, ses gestuels, ces choses-là. Et je pense que la Chine, sur quelques photos que vous avez vues passer, nous en a... Enfin, moi, m'a appris beaucoup. L'écriture chinoise est fabuleuse, c'est qu'elle passe par l'art du trait. Et moi, j'ai une relation naturelle avec la nécessité du trait. Le geste de pinceau, comme on parle d'une manière noble en Chine, qui est un art à part entière et qui débouche après sur l'écriture qui fait sens. Mais on n'a pas besoin de ça pour aimer un trait. Le trait est vie de lui-même. Je vous en dirai quelques mots après. En vérité, oui, paradoxe, il s'apprend tout de même, paradoxe difficile à saisir pour celui qui ne pratique pas. C'est là la différence. Je crois qu'on peut comprendre là, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un instinct naturel aujourd'hui, énormément de gens vont dans des ateliers s'exercer, et ils ont bien raison. C'est une manière de comprendre ce processus créatif. Ça ne se comprend pas sur les bancs de la fac, ou même avec des beaux mots et un beau texte. Ça se pratique, ça s'expérimente, c'est physique. C'est comme pour apprendre à nager, on ne dit pas une théorie au bord de la piscine, on plonge, on se noie une fois, on se noie deux fois, et après, c'est mieux. Hein. On ne peut pas apprendre à nager sans sauter à l'eau. C'est aussi trivial que ça. Alors, moi, je fais appel à un autre peintre qui est très important dans la culture de la peinture au XXe siècle et pour les artistes que nous sommes. En 1911, le peintre Kandinsky publie son essai « Du spirituel dans l'art et la peinture en particulier ». Ce titre résume assez bien une idée essentielle qui évoque, pour se renouveler, l'art gagne à emprunter le chemin spirituel. Alors, entendons bien ce que veut dire spirituel. Spirituel, c'est le monde de l'esprit, ce n'est pas le monde religieux, ce n'est pas le monde de la religion. Il faut aussi remettre les mots à leur place. Le spirituel, c'est le monde de l'esprit. Ça peut impliquer tout le reste, mais c'est une nécessité intérieure. C'est-à-dire que celui de la pensée de l'esprit, et même surtout si, comme la peinture, s'exprime avec de la matière. On est dans le monde de l'esprit, mais on est rivé à la matière. Les musiciens, là-dessus, sans ça que c'est un art supérieur, à mon avis, c'est qu'ils ne sont pas encombrés par la matière, les musiciens. Ils sont dans le son, la vibration. Et l'art supérieur, moi je mettrais la poésie avant. La poésie est un art du verbe, du son, de la sensation. C'est un art total. Et j'ai fait un travail dernièrement avec un poète que vous connaissez, les Vosgiens, c'est Richard Rognier. D'ailleurs, il a eu le prix Calais-Roussel ici il y a quelques années. Et en fait, on est dans la même démarche, absolument. Alors, Kandinsky, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est un des peintres majeurs du XXe siècle, et il a radicalement changé notre regard sur l'art, et il a libéré l'art d'un carcan de codes, je dirais, d'injonctions, et ça a été salutaire. On en avait besoin là, c'était ridicule au XVIe, c'était sa place au XXe, et Kandinsky ouvre le XXIe siècle. Il a changé notre regard, et lui, il l'a vécu d'une manière particulière. C'est qu'un jour, dans son atelier, il avait laissé la veille une peinture, abandonnée comme ça. Il rentre le lendemain, il a un choc émotionnel, esthétique, artistique, quand il ne reconnaît pas l'œuvre qui était la sienne la veille, il l'avait mise à l'envers. Et là, il s'est rendu compte, bien évidemment, qu'on n'avait pas besoin de la représentation pour aimer une œuvre, pour avoir un choc, et même plus que ça. Dégager de la représentation, on est dans l'émotion pure. Et est né ce courant qui menace, à mon sens, est majeur au XXe siècle, c'est l'abstraction. Alors, l'abstraction, c'est quoi? C'est pas retirer la figuration, c'est rajouter autre chose. Et c'est là que je reviens à l'idée du spirituel, c'est qu'on rentre davantage dans le monde de l'esprit, au sens ouvert du mot. Hein. Vous voyez, aucune connotation religieuse restrictive. Voilà. Donc, Kandinsky a vécu un retournement lorsqu'en rentrant dans son atelier, il se ne reconnaît pas l'œuvre qui est la sienne, parce qu'elle est à l'envers. Ce nouveau regard, ce retournement au sens philosophique du terme, lui a procuré un choc esthétique et fait sens. Par cette vision, il inaugure le mouvement essentiel durant tout le siècle, donc l'abstraction, etc. À notre époque, revenons un siècle après, c'est plus d'un siècle après, à notre époque saturée par l'information, je crois que là-dessus on est tous conscients, et par le déclin de la mystique et du spirituel. Je crois qu'en franc-maçonnerie, on comprend à quel point c'est une voie initiatique qui nous relie et qui nous raccroche à cette essence première qu'on a en nous. Et c'est en ça que ça demande une initiation, comme l'art demande à être initié. Pour ça, je dis toujours, il n'y a pas qu'une initiation, il y a plein d'initiations. Voilà. Initiation, ça veut dire passer d'une conscience à une autre aussi. C'est passer d'un état à un autre. Avant une initiation, après une initiation, on n'est pas tout à fait le même, la même. Alors, à notre époque, saturée par l'information, par le déclin de mystique et du spirituel, mettre en place un rituel, et dans le domaine de l'art encore plus, ne tombe pas sous le sens non plus. C'est par une nécessité personnelle que je m'y suis résolue. Alors, dans la phase qui va suivre, j'ai peut-être un peu parlé de moi, parce que c'est par mon expérience, moi, que j'ai découvert ça. Les livres ne suffisent pas, ce que je vis à l'extérieur ne suffit pas. Et j'ai envie de dire, c'est une sorte d'instinct salutaire. Parce qu'on dit l'artiste est libre, c'est une réalité. Mais cette réalité de l'artiste, la liberté, peut être asphyxiante quand on ne sait pas comment exister à l'intérieur de cette liberté. J'ai pris trop de temps, Jacques. Ça va ?
Non, il reste 10 minutes.
Je vais faire vite. Rien ne va soi dans la solitude de l'atelier. Il faut dire que là, on est seul face à une page blanche. Il y a le secours de rien du tout, il n'y a aucun artifice. On est comme ça, plongé dans cette solitude qui peut être pesante. Pour ma part, et après des années de pratique solitaire, j'ai compris, surtout saisi la nécessité de mettre en place un rituel, de me soumettre à une discipline pour ouvrir des possibles, se connecter à soi et écouter son intuition. Parce que c'est là, le fond créatif, il est là. Il n'est pas dans l'apprentissage, même s'il est nécessaire, il est vraiment dans un état d'être où va pouvoir jaillir cette créativité. J'ai compris à ce moment-là qu'il s'agissait d'une condition essentielle de la liberté de l'artiste. Libre, c'est pas faire n'importe quoi. Là, d'abord, je suis libre, je sais ce que je veux. Eh bien non, la liberté est conditionnelle, est subordonnée à des conditions. Et en tous les cas, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à rentrer dans mon chemin d'artiste. Parfois, on met 15 ans, parfois, on met une vie. Parfois, on y échappe complètement. Dans notre société profane, nous ne savons plus ce qu'est un rituel qui souvent s'apparente à des mythes. Des mythes à propos de l'art, il y en a mille. Il a fallu quand même aussi leur tordre un peu le cou. Parce que parfois dans les mythes, il y a des idées toutes faites. Il y a aussi des choses qui ne sont pas porteuses. Après 5 ans d'études d'art, donc, pour dire qu'on passe par une discipline d'apprentissage, et des années d'une lente et fragile évolution, ma liberté d'artiste me conduisait plus souvent à l'errance. Ça, c'est une sensation destructrice de sa personne. C'est très embêtant, l'errance. Et c'est quand on fait durer cet état-là, il faut changer de métier. Vraiment, parce qu'on se fait du mal. Ce chemin incertain, anxiogène de la toile blanche, et afin d'en sortir, j'ai cette nécessité d'instaurer une sorte de rituel pour que les choses adviennent. Parce qu'elles n'adviennent pas par notre volonté, elles adviennent par une posture, par une relation, dans une relation. Au commencement était le rite. Je reprends ce que Jacques a dit dans je trouve cette phrase magnifique. Au commencement est le verbe, au commencement est le rite. C'est un sociologue, je crois, qui a dit ça. Voilà, Maurice Ocard. Depuis bien longtemps pour moi, chaque journée d'atelier commence par une manière rituelique, comme une sorte de protocole, de cérémonial, afin que chaque geste soit les mêmes pour ouvrir un espace nouveau. Je suis dans la répétition du même geste tous les jours, à la même heure, au même endroit, un pinceau, une encre, un papier blanc, et je répète inlassablement pour que peu à peu, je sorte de l'idée que j'ai des choses, de l'agitation cérébrale, je rentre dans ce silence du dedans, et seulement là, je peux atteindre l'idée d'un trait vivant, l'idée d'un geste artistique. Qu'est-ce qu'on attend dans l'art si ce n'est quelque chose qui est vivant ? Voilà. C'est par le rejeu qu'advient l'expérience, on peut le comprendre. Hein. Les musiciens savent, ils sont condamnés à reprendre le labeur de l'instrument pour se remettre la justesse, pour se remettre le geste dans le bon geste, sinon c'est une cacophonie insupportable. C'est par le jeu-jeu qu'advient l'expérience, la dextérité, la qualité du geste. Et là, je reviens sur mon passage en Chine, les Chinois ont cette discipline en eux. Les calligraphes chinois, j'ai eu la chance de rencontrer un maître à Shanghai, Maître Sen, ils ont ils adoptent véritablement une discipline de travail qui n'est pas spectaculaire, mais alors dont le résultat est spectaculaire. Voilà. Ça montre bien que l'art n'émane pas de nous, mais traverse. On doit être l'instrument de musique, justement, et rien de plus. Hein, pour que d'un côté et de l'autre se fasse l'œuvre, on est l'instrument par lequel passe le geste créatif. Donc la tradition chinoise, et c'est François Schenk et le livre Vie des plaintes que j'ai rencontré il y a 40 ans au début. Je ne connaissais pas François Schenk, je faisais mes études d'art à Paris, je tombe sur ce petit bouquin dans une vitrine, et par un instinct on ne s'explique pas des intuitions, des instincts, peu importe, j'ai compris que c'était le livre qui s'adressait qu'à moi. Mais qu'à moi, c'est fou. C'est là peut-être que l'artiste a très goûté. En tous les cas, c'est une Bible qui ne m'a jamais quittée. Le geste de pinceau, et je vais vous lire un texte qu'il écrit, le geste du pinceau est essentiel pour animer un espace de peinture. Fréquentant la Chine depuis 23 ans, bref, bon, je vais vous passer ça. Je vais vous lire le texte que François Chénet. Par rapport à la poésie, cet autre sommet de la culture chinoise, vous remarquez que dans la peinture chinoise, la poésie est toujours adjacente. Sommet de la peinture chinoise, la peinture, par l'espace originel qu'elle incarne, par les souffles vitaux qu'elle suscite, semble plus apte encore, non pas tant à décrire les spectacles de la création, mais à prendre part au geste même de la création. On comprend que là, une initiation est nécessaire. C'est un passage d'un état à un autre, vital. Et c'est dans son livre Victor Pin. Hein. Donc la peinture est venue, à partir de ce moment-là, une ascèse. Une discipline, au même titre que peut-être, j'ai parfois une voix monacale, je suis seule 5 minutes.
Ah oui, il y a plus de questions. Oui. On laisse la place aux questions, parce que dans 25 minutes, on a une cérémonie officielle.
Je n'ai pas parlé du bleu.
Oui, bah oui, alors peut-être un peu.
Alors le bleu, faut que je parle du bleu. Oui. Le bleu, ben, je n'ai pas choisi le bleu, je crois une espèce d'identité naturelle et que sans bleu, je fais du bleu, c'est le passage impensable. Donc le bleu pour moi, c'est quand même c'est une couleur timide qui m'allait bien. C'est une couleur du silence, de l'immensité. C'est la fluidité qui se répand, c'est le murmure, c'est l'espace, c'est le ciel, c'est l'eau, c'est l'impalpable, c'est l'invisible, c'est tout ce qui se dématérialise et c'est ça qui m'amène à la poétique de l'image. Voilà, merci.
Merci. Merci Annie pour ton discours dynamique, engagé et résolument optimiste, hein, pour ceux qui auraient des velléités de devenir artiste. J'ai retenu surtout dans ton discours que la beauté ne suffit pas à définir une œuvre d'art. Ça, c'est ce qui m'a frappé, donc, t'écoutant tout de suite. Mesdames, messieurs, la parole circule, donc si vous avez des questions, des remarques, des observations, merci de lever la main et que je puisse vous donner la parole. C'est le premier pas qui coûte. Oui, madame.
Alors, moi, je voulais demander à Alice si elle trouve effectivement deux dimensions spirituelles, parce que je pense que la vie de Marie, en fait, a un certain nombre de... C'est une couleur qui est représentée effectivement par religieux. Mmh. Qu'est-ce que tu peux être imprégné par ça, ou qu'est-ce que tu peux en faire, tu es au-delà de ça? C'est une question personnelle.
Dès qu'on essaye de raisonner quelque chose, c'est toujours quelque chose qui vient après. Et pas avant. Hein. C'est pas ça qui fait agir, c'est l'agissement qui interroge. Alors, j'ai fait une planche sur le bleu, hein, pour les personnes qui sont là, où je m'en suis expliqué. Le bleu, c'était la couleur la plus mal aimée de toute l'histoire. Une simple chose, parce que le bleu n'existe pas beaucoup dans la nature. Donc, on ne pouvait pas faire recette sur le bleu. Hein. La seule chose qu'on avait, c'était le lapis-lazuli, et ça pouvait. Et c'est pour ça que c'est devenu la couleur du manteau de Marie, mais voilà. Aussi. Chez les Égyptiens, le domaine sacré, c'était accaparer le bleu par sa rareté, par sa cherté, par... voilà. En dehors de ça, elle a été mal aimée toute ça depuis le début de l'histoire. Et aujourd'hui, statistiquement, c'est la couleur la plus plébiscitée. Donc, je me dis que les temps changent. Et je me dis qu'on a besoin de ciel davantage, qu'on a besoin de poésie, qu'on a besoin d'immatérialité, qu'on a besoin de tremper le bleu, autant le rouge nous dynamise, autant le bleu nous rentre en nous, nous pousse. Voilà.
Une autre question, une autre remarque?
Pour la minute qui reste,
merci. Non, mais tu veux pas la...
Non, plus le tien, c'est toi là.
Dernier tour de table.
Oui.
Ah ouais, non, mais il faut la poser là, devant tout le monde. J'ai pas entendu.
Non, c'est pas une question.
Ah, c'est pas une question.
C'est une blague, Jean.
C'était une blague. Bleu.
Bis.
Voilà. On a fait le tour. Annie a été implacable et vous a scotché sur votre siège.
Pardon de ne pas être assez experte pour rentrer toutes mes idées dans cette planche. J'ai oublié le temps.
Bon, Annie, je vais avoir l'honneur et l'avantage de te remettre ce diplôme des imaginaires maçonniques et ésotériques de la part de deux coprésidents qui sont là-bas. Notre ami Jacques Orifice et notre ami Patrice Lotte. Voilà, je te remets ces beaux diplômes. Merci à toutes et à tous d'avoir été attentifs à cette dernière conférence. Jacques, tu voulais...
Oui, je voulais simplement dire que la 10e édition des Imaginales se termine avec le même succès que les 10 éditions précédentes. Et elle va se terminer donc, avec la remise du prix Cadet-Roussel, donc à 17h30 précise, en présence du maire d'Épinal, qui est toujours d'une exactitude remarquable. Donc c'est la raison pour laquelle j'étais un petit peu insistant sur le fait qu'il fallait arrêter relativement vite, que tout le monde descend, et que nous puissions recevoir le maire d'Épinal, le président de la communauté d'agglomération, le député maire, le député, enfin, etc. Donc merci à tous d'être venus, d'avoir suivi ces imaginales, et puis je vous dis à l'année prochaine pour un nouveau thème, de nouveaux intervenants. Et de nouveaux plaisirs esthétiques, intellectuels. Et puis merci à tous ceux qui nous ont aidés à organiser ces...